L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Aujourd'hui, on reçoit des témoins qui ont sans doute passé un, voire des moments forts pendant tout un week-end prolongé. Elles sont allées loin du Finistère, dans le nord de la France, à Grande-Synthe, aider ces associations qui aident les migrants. Toutes ces personnes qui rêvent de traverser la Manche, de refaire leur vie en Grande-Bretagne et qui attendent donc au bord de la France. Pas du tout les bienvenus, ces réfugiés, ou quel que soit le nom qu'on leur donne. Diverses nationalités, diverses réalités, un seul élan vers l'ailleurs et un quotidien particulièrement dur que nos témoins du jour ont pu entreapercevoir. C'est vrai aussi d'ailleurs à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne où des êtres humains servent d'instruments, voire d'armes géopolitiques. En France, le camp de réfugiés de Grande-Synthe vient d'ailleurs d'être démantelé quelques jours après le passage de nos invités. Elles sont trois, Bénédicte Palissave, Charline Lecor et Anne-Cécile Dronneau. Bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, expliquez-nous dans quel cadre est-ce qu'on peut aller comme ça à Grande-Synthe aider les réfugiés. Charline Lecor.
C'est important de savoir que sur place, il y a de nombreuses associations et des citoyens qui viennent en aide chaque jour à ces exilés qui vivent sans rien, dans le plus grand dénouement, dans les plus grandes souffrances. Nous avons la chance d'avoir pour point commun le mouvement Emmaüs et d'avoir pris connaissance dès 2017 de la situation qui se vivait là-bas. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. J'y suis allée à titre personnel en 2017 et 2018. Nous avons fait un départ collectif avec la communauté Emmaüs de Brest en 2019. Nous y sommes retournés, Bénédicte et moi, en 2020 et cette année, on a réussi à y aller en trio et à continuer d'être témoins de cette réalité.
Et vous y allez parce pourquoi ? Enfin, quelles sont vos motivations alors ?
On y va parce que nous sommes humains et qu'on ne peut pas tolérer et rester aveugle et muet face à ce qui se passe là-bas. On y va pour prêter main forte aux associations qui vivent ça, elles, au quotidien. Nous, c'est une fois par an, c'est vraiment un grain de sable. Mais elles ont besoin de renforts réguliers. Il faut savoir que chaque citoyen peut prendre contact avec ces associations et aller prêter main forte à tout moment. Il y a vraiment besoin de renforts.
Anne-Cécile, Tourneau, pourquoi est-ce qu'on y va ?
Alors, on y allait aussi avec un camion plein de vives, avec des couvertures, des chaussures, des manteaux, pour pouvoir distribuer aux associations locales, afin de donner ensuite aux migrants.
Oui, c'est ça. On ne vient pas les mains vides en général, c'est ça ?
Bah là, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous prêtait un camion. Donc, on essaye de ne pas y aller les mains vides. Mais encore une fois, s'il y a des gens qui veulent y aller même avec les mains vides, il y a vraiment besoin aussi de bras sur place pour pouvoir accompagner toutes les associations locales.
Mais il faut peut-être prévenir avant pour être hébergé, j'imagine.
Oui, c'est bien de prendre contact avec les associations sur place pour préparer les choses en amont. Je rajouterais aussi qu'on y va pour montrer à toutes ces personnes, ces exilés qui se font malmener, qui ont un parcours migratoire atroce, qu'il y a en France des gens qui les considèrent, qui ont envie de leur offrir un peu de dignité et qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils existent.
Ouais, offrir un autre visage aussi de l'accueil, sourire, voilà. L'hospitalité française, bien connue. Et ces associations, est-ce qu'on peut en dire un mot justement puisqu'on était sur le sujet, bon, on ne va peut-être pas toutes les passer en revue, je ne sais pas combien il y en a, mais...
Il y a énormément d'associations. Nous, on peut citer celles qu'on connaît le mieux. Il y a notamment la communauté Emmaüs de Grande-Synthe, Dunkerque, qui est aux portes de ces différents camps et qui procède chaque vendredi à une distribution alimentaire, donc la préparation d'un repas pour des centaines et des centaines, voire milliers de personnes. Et cette distribution qu'ils font chaque vendredi. Les autres jours, ce sont d'autres associations qui se relaient. Il y a également la maison Sésame à Herzel, qui nous a accueillis. C'est une maison qui est un lieu d'hospitalité et d'expérimentation sociale et collective. Il a ouvert ses portes en 2019 et il permet à ces exilés de venir prendre une petite pause pour dormir en sécurité quelques nuits avant de retenter un départ vers la Grande-Bretagne. Et donc nous avons été accueillis durant ces journées au sein de cette maison Sésame.
Les personnes exilées, justement, qui sont-elles, ces personnes ? Est-ce que vous pouvez... Enfin, celles que vous avez croisées, évidemment, hein, combien elles sont déjà ? Est-ce qu'on sait combien elles sont ?
Alors quand nous sommes rendus à Grande-Synthe, sur le campement de Grande-Synthe, un dénombrement avait été fait du nombre de tentes. Il y avait 1400 tentes quand nous y sommes rendus. en sachant qu'il y a rarement une seule personne partante. Ces personnes, elles sont diverses, elles sont multiples, elles viennent de différents pays et continents. On a des personnes qui viennent d'Afrique de l'Est, des personnes qui viennent du Kurdistan, d'Afghanistan, d'Irak. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, il y a des familles, il y a des enfants en bas âge, beaucoup d'adolescents qui ont normalement l'avenir devant eux, pas mal de vieillards également.
Ce sont aussi des personnes qui sont anglophones, donc qui ne souhaitent pas rester en France. Ils sont vraiment là en transit.
Oui, c'est ce que j'avais demandé. Et s'ils sont à Grande-Synthe ou à Calais, enfin bon, c'est un peu pareil, j'imagine, la situation, non ? C'est différent entre les deux villes ? Ouais. Et donc, c'est vraiment parce qu'ils visent la Grande-Bretagne.
Ah, complètement, ils ne veulent pas rester.
Et pourquoi ? Et d'ailleurs, ils vous ont expliqué pourquoi ?
Parce qu'on déjà, c'est leur langue, ils parlent anglais. Et ensuite, en Angleterre, il n'y a pas de papier d'identité. Donc, c'est plus facile de travailler qu'en France où il y a des cartes d'identité.
Sauf qu'apparemment, la Grande-Bretagne, en ce moment, n'est pas d'accord.
Voilà. Ça non fait plus. Un moment qu'elle n'est pas d'accord.
C'est ça, oui.
Souvent, ils ont aussi déjà de la famille, en fait, des membres de leur famille sur place. Et puis oui, l'Angleterre, c'est pour eux un peu l'Eldorado, où c'est plus facile de travailler, ou en France, un étranger a de grandes difficultés, notamment s'il est en situation irrégulière, il n'a pas le droit de travailler.
Et ils visent une traversée maritime, en fait, c'est ça ? Enfin, concrètement.
Il y en a qui essayent de passer avec des camions via le tunnel sous la Manche, et il y en a qui essayent de passer avec des radeaux de fortune. Alors pendant qu'on y était, donc on y était le 11 novembre, il y a des bateaux qui sont partis de la plage de Malo-les-Bains en pleine journée, pendant les commémorations, parce qu'ils avaient compris que les forces de police étaient aux commémorations, devant l'œil des badauds qui n'en croyaient pas leurs yeux, il y a des bateaux qui sont partis vers l'Angleterre. Alors est-ce qu'ils sont arrivés, est-ce qu'ils ne sont pas arrivés, ça on...
Et c'est quel genre de bateau ces bateaux de passeurs,
c'est ça, des bateaux de gonflables, hein. C'est pas des...
Ah ouais, ouais.
Oui, ce sont des petites embarcations qui sont prévues peut-être pour 5, 6, 7 personnes et sur lesquelles ils embarquent à 40. Parfois aussi, on l'a vu récemment et d'ailleurs ça a fait la une avec des kayaks, des canoës. Les deux modes de traversée, hein, que ce soit par camion ou par voie maritime, sont tout aussi dangereux l'un comme l'autre.
Et parfois, les personnes qui traversent sont instrumentalisées pour d'autres trafics, entre guillemets, pas seulement humains. Est-ce qu'il y a, il y a quand même des histoires qui circulent ? Est-ce que ce sont des... Enfin, est-ce que vous pouvez en parler quand même ? Nous en raconter une ?
Ça, on ne sait pas. On n'a pas vérifié les faits.
D'accord.
Il se dit donc... qu'il y aurait aussi d'accord. d'autres trafics
c'est ça,
sur la Manche, mais bon, voilà.
Vous n'avez pas pu vérifier, donc sur
les...
D'accord. Et sinon, alors au quotidien, à Grande-Synthe ou à Calais, ou peut-être ailleurs sur la côte, non ? Vous avez d'autres endroits, il y a d'autres endroits où les migrants s'installent ?
Il y a des camps, mais il y a aussi plein de personnes isolées dans des tentes, dans les bosquets, dans les bois. Quand on prend l'autoroute la nuit, on croise souvent des personnes qui sont sur le bas-côté. Il y a plein de gens. Ils sont cachés, on ne les voit pas forcément.
Et ce qu'on doit dénoncer en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a un acharnement contre ces personnes qui se vit au quotidien, qui s'accélère, c'est-à-dire que le peu de sécurité qu'elles peuvent avoir, c'est d'avoir une bâche sur la tête ou une tente, et qu'actuellement, on est à des démantèlements toutes les 48 heures, voire tous les jours, de ces campements.
Quand on dit démantèlement, ça veut dire quoi,
concrètement ? Ça veut dire que les forces de l'ordre débarquent sans avoir prévenu les associations. Donc les personnes elles-mêmes ne sont pas prévenues. Ça leur fait peur, ça les effraie. Vous imaginez des enfants qui voient débarquer des cars de CRS, de personnes aussi en combinaison pour des raisons sanitaires, et qui viennent éventrer à coups de couteau les tentes pour qu'elles ne puissent plus servir.
Donner des coups de matraque sur les téléphones.
Donner des coups de matraque et les personnes, le peu qu'elles le possèdent, elles le perdent souvent dans ces moments-là. Ça, alors officiellement, ça a pour but de mettre les personnes à l'abri, sauf que bien entendu, il n'y a pas assez de place pour toutes et que de toute façon, elles ne souhaitent pas être mises à l'abri parce qu'à tout moment, un départ peut s'organiser vers la Grande-Bretagne. Mais en réalité, ça a pour but de les invisibiliser, de les faire s'éloigner de plus en plus des villes parce que ça pose un problème aux communes d'avoir ce type de campement et elle se trouve dans une précarité encore plus forte et surtout à la merci des passeurs. Et il y a une réalité, c'est qu'il y a des passeurs, il y a des personnes qui s'enrichissent sur du trafic d'êtres humains et ces démantèlements en série ne font que renforcer les passeurs.
Et c'est qui d'ailleurs les passeurs ? On sait est-ce que c'est des Français ou c'est des personnes venues d'ailleurs ou...
on ne pourrait pas vous dire, mais en tout cas, je pense qu'ils sont très très bien connus par les autres autorités et eux vivent dans de bonnes conditions.
Et les autorités, justement, enfin, qu'est-ce que ça s'appelle déjà mettre à l'abri des personnes ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, les mettre à l'abri ?
Mettre à l'abri, ça va être proposer une, deux, trois nuits dans un hôtel social, type ce qu'on pourrait proposer avec le 115. Je te laisse compléter.
Après, on les met dans des cas. On les... Là, sur le camp de Grande Sainte qui a été démantelé mardi, je crois qu'il n'y a que 400 personnes qui ont été relogées dans le Nord-Pas-de-Calais. Les autres sont partis en région parisienne. Donc, ça ne les intéresse pas d'aller en région parisienne. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Leur objectif, c'est l'Angleterre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils se débrouillent pour revenir sur Calais. En fait, on les épuise. C'est des gens qu'on épuise et c'est des gens.
Mais c'est le but d'ailleurs, je crois.
C'est le but. Mais c'est des gens comme nous. Nous, quand on a fait les distributions alimentaires, bah voilà, c'est monsieur, madame, tout le monde avec leurs gamins qui ont les mêmes âges que les nôtres, qui sont, bah voilà, qui ont de la boue jusqu'au mollet. Les autorités labourent quand même des champs et des prairies pour pas que les gens puissent mettre leurs tentes. Enfin, c'est vrai que c'est quand même très hallucinant ce qui se passe là-bas.
Il y a des, enfin, je ne sais pas si les autres associations vous en ont parlé, mais il y a des pays où l'accueil est plus organisé, sans doute, où il y a des véritables villes qui sont installées, c'est ça ? Vous avez des exemples de ce que souhaiteraient les associations ?
Ils souhaiteraient. Là, déjà, il y a eu une grève de la faim là, à Calais. Il y a trois personnes qui ont fait la grève de la faim pour réclamer à l'État français qu'on laisse une trêve hivernale au camp, qu'on arrête de démanteler les camps au moins pendant l'hiver, qu'on les laisse tranquilles avec leur couverture, avec leur pauvre abri de fortune.
Surtout qu'il y a moins de personnes qui arrivent cette saison, je suppose, non ?
Ça, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des saisons.
Ouais, ouais.
Donc ça, c'était déjà une des demandes fortes qui n'a pas été entendue.
Faut vraiment prendre conscience. Alors les mots hein, sont bien peu de choses pour se représenter ce qui se passe là-bas. Mais leur quotidien à ces exilés, c'est la lutte permanente, lutter pour sa survie, lutter pour trouver quelque chose à manger. Tout demande un effort en permanence, lutter pour pas se laisser prendre par le froid, attendre qu'on soit contacté pour tenter une traversée, voir le peu de sécurité qu'on a perpétuellement être détruit. Enfin, c'est un quotidien qui est atroce. Alors là, on arrive dans la mauvaise saison en plus, donc ils vont être dans la boue, ils vont être dans le froid, dans la pluie. C'est inhumain ce qu'on leur fait subir.
Et donc, il n'y a aucune prise en charge, évidemment, de leur alimentation. S'il n'y avait pas les associations, ces gens ne seraient pas nourris, en fait, c'est ça. Hein. Ouais. Et les associations arrivent à leur proposer combien de repas par jour ?
Nous, on était avec l'association Emmaüs de Dunkerque, qui, tous les vendredis, fait une distribution sur le repas du midi. Il me semble qu'il y a une distribution tous les jours.
Une seule, quoi, déjà. Enfin,
seule,
voilà.
Ouais. Il n'y a pas de repas le soir, il n'y a pas de petit.
Et tout le monde n'y a pas forcément accès hein, parce qu'ils sont très nombreux. Certains ont peur de venir. Il y a des questions aussi de conflits avec les passeurs. Tout le monde n'accède pas forcément. Nous, on a distribué 750 repas le jour où on a fait la distribution. Je vous le disais tout à l'heure, plus de 1400 tentes. Donc, oui. On est loin du compte. Hein. C'est des gens qui ont faim, littéralement.
Et comment ça se passe avec les gens qui habitent à Grande-Sainte, à Dunkerque, à Calais
Alors, il y a des belles histoires. Hein. On nous racontait qu'il y avait une petite mamie, par exemple, qui venait deux fois par semaine laver les chaussettes et repriser les chaussettes des migrants parce qu'elle trouvait inadmissible qu'ils aient des chaussettes mouillées et qu'ils aient froid. Donc, il y a plein de solidarité. Il y a des habitants qui mettent aussi en recharge les téléphones portables. Alors, c'est vrai que ces histoires-là, on ne les raconte pas dans les médias. On raconte toujours qu'ils sont un peu parias, que la société n'en veut pas, qu'ils posent problème. Concrètement, nous, on n'a pas eu cette impression-là.
Il y a aussi de plus en plus de citoyens qui font de l'accueil solidaire, comme on l'a vécu à la Maison Sésame. Il y a plusieurs maisons qui voient le jour et qui permettent d'accueillir pendant 2, 3, 4 nuits ces exilés pour venir se reposer, être au chaud pour reprendre des forces en fait pour la suite de leur parcours migratoire.
Et dans la maison dans laquelle on était là, donc c'est une personne qui a mis à disposition sa maison. On a accueilli pendant le week-end 8 jeunes africains. Je pense que la moitié n'était pas majeure.
Mineurs, ouais, c'est ça.
Mineurs. Ils arrivent là, ça fait 5 mois qu'ils sont dans la jungle. Ils arrivent là, ils se douchent, on lave leurs vêtements, ils dorment dans un lit. Pour certains, ça fait peut-être 2-3 ans qu'ils n'ont pas dormi dans un lit.
Ah ouais.
Ils mangent leur repas chaud, ils s'assoient sur une chaise, ils ne mangent plus accroupis dans la forêt. Et il y a plein d'habitants qui ont ce genre d'initiative.
Mmh. Et les communes, enfin les élus des communes en question, bon là ça a bougé aussi hein, depuis les dernières municipales, mais parce que Grande-Sainte avant c'était plutôt une ville accueillante, hein, c'est ouais. Ça
Alors là moi j'arrive pas à savoir au niveau politique ce qui se passe à Grande-Sainte, je ne sais pas. En fait, quand on entend certains médias, ils disent que le camp a été démantelé à cause de la municipalité de Grande-Synthe. Quand on écoute d'autres médias, ils disent que ce n'est pas du tout ce que demandait le maire Grande-Synthe. Donc, moi, je n'ai pas la réponse.
Est-ce qu'il y a un dialogue entre les associations et les élus, en fait ?
Oui, ça dépend des périodes. Mais en fait, ce que souhaiterait tout le monde, c'est qu'il y ait un vrai dispositif d'accueil, ce qui permet de venir arrêter les réseaux de passeurs et ce qui permettrait aussi peut-être de mieux expliquer la situation en Grande-Bretagne et que certaines personnes renonceraient à cette traversée meurtrière.
Surtout que c'est la France qui gère la frontière avec l'Angleterre et que ça serait bien que l'Angleterre prenne en charge sa frontière.
Et combien, vous avez une idée de combien de bénévoles aident comme ça régulièrement Non, vous ne pouvez pas dire sur l'ensemble de la...
Il y a plein d'assauts, hein. Il y a Utopia 56 qui intervient, il y a l'Auberge des migrants à Calais qui intervient. Il y a plein de jeunes qui viennent aussi passer un mois, deux mois, trois mois, un an en tant que bénévole à la frontière. Il y a vraiment des jolies initiatives.
Qu'est-ce qui vous a frappé, puisque ça fait plusieurs années que vous y allez? Est-ce que vous avez vu des changements en bien, en pas bien, enfin...
C'est de pire en pire, les conditions dans lesquelles ils vivent, et puis ces démantèlements quasi quotidiens sont de pire en pire. Ce qui a changé, je pense, c'est que là, il y a de plus en plus de tentatives de traverser par la mer, ce qui n'était pas forcément vrai les années précédentes. Nous, dans l'expérience qu'on a vécue, ce qui a changé, c'est que c'était la première fois qu'on était... accueillie et accueillante au sein de la Maison Sésame. Donc on n'a pas eu seulement un rapport distributif de celui qui donne avec en dessous celui qui reçoit lors des distributions alimentaires. Non, là, on a vécu sous le même toit que ces 8 jeunes soudanais pendant 3 jours. Donc c'est pas du tout le même rapport. On était sous le même toit.
Ouais, vous aviez des rapports plus personnels en fait avec les... C'est ça. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que finalement, même en étant un bénévole qui aide, on peut devenir une sorte de robot. Enfin, il y a tellement de gens que c'est ça.
Oui,
en fait.
Voilà, très concrètement, quand le groupe est arrivé, alors les chambres avaient été préparées, le repas avait été préparé, mais on a un jeune homme qui est arrivé avec une infection dentaire, il avait le visage gonflé, donc il nous a expliqué sa douleur, on a fait en sorte de trouver... des médicaments pour le soulager, enfin voilà, c'est pas le même rapport. On a fait la vaisselle avec eux, on a débarrassé la table, on a rigolé, voilà.
Et donc ils venaient tous du Soudan, c'est ça les 8 personnes?
Les 8, ouais.
D'accord. C'était que des hommes ou il y avait...
Que des hommes.
Ouais. Et c'est souvent ça, peut-être qu'il y a quand même une majorité de jeunes hommes. Parce que c'est un périple tellement long que...
Il y a de tout, il y a malheureusement beaucoup de familles, hein, des départs groupés de familles qui viennent chercher un autre avenir ici.
Il y a des femmes isolées aussi.
Oui, également.
Donc, c'est avec d'autres problématiques.
Nous, on s'interrogeait même de comment une femme isolée arrive à vivre dans un camp. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est la question qui vient forcément. Et ces 8 personnes que vous avez pu côtoyer, qu'est-ce qu'elles vous disaient sur le pourquoi elles étaient parties, pourquoi, enfin. Est-ce qu'elles vous ont raconté leur histoire? Parce qu'ils sont parfois pudiques aussi.
Elles n'ont pas raconté et toutes les trois, on a une posture de ne pas aller creuser. Ça sort si ça doit sortir. Mais c'est aussi leur histoire et c'est des questions qu'on leur pose en permanence tout le temps. Et là, on les a juste reçues sur un pied d'égalité à découvrir leur caractère. Et voilà.
Oui, par exemple, je vous avais échangé sur quoi? Alors, sur la musique qu'ils aimaient, la cuisine ou des trucs comme ça, non? C'est quoi les sujets d'échange, justement?
La santé, sur comment ils vont, sur leur quotidien un petit peu. Et puis, on a eu la chance d'arriver un jour où il y avait une fête avec également des exilés qui faisaient de la musique. Donc là, on a vu qu'ils se sont un petit peu réveillés, ils se sont un petit peu éclairés. On a vu les sourires démarrer. Et voilà, ils ont juste passé un bon moment. Et c'est un peu l'objectif de ces week-ends où ils sortent de la jungle, c'est qu'ils oublient la boue, puis qu'ils se reposent et puis qu'ils passent à autre chose.
Qu'ils se reposent, en effet. Ils arrivent, ils sont épuisés. Donc, en fait, on n'a pas vraiment le temps de discuter au coin du feu. C'est les besoins primaires avant tout, manger, dormir, avoir un sourire, une parole bienveillante. Mais ils sont exténués quand ils arrivent et ils passent beaucoup de temps à dormir.
On a beaucoup parlé des besoins primaires. Effectivement, l'alimentation, dormir, la santé. Mais je crois qu'il y a des associations qui interviennent plus, puisqu'on est à Renard-Pince, à Châtelain, c'est un lieu culturel. Enfin, il y a aussi des associations qui interviennent justement pour proposer autre chose, je crois, non? Des moments peut-être un peu plus légers, comme vous dites, je ne sais pas, de la musique, non? Vous avez eu vent de ça?
Oui, il y a plein d'initiatives, plein d'échanges culturels qui se font. Oui.
Par exemple, non ? Des exemples ?
Bah, l'exemple qu'a donné Anne-Cécile tout à l'heure, ce concert improvisé avec des exilés qui nous ont joué de la musique traditionnelle.
On dansait toute l'après-midi.
Ah ouais. Et ils ont leurs instruments avec eux alors ?
Eh ben, ça je ne sais pas. Après, ils se font prêter. Il y a tout le réseau du bénévolat qui est là, mais ils sont arrivés avec deux synthés. Ils ont joué pendant 4 heures, ça dansait pendant 4 heures. Et voilà, vraiment, ça a été un peu le défouloir, quoi.
Ouais.
Moi, je voudrais juste profiter que vous nous offrez cette parole pour passer quelques messages au lieu de juste parler de cette expérience très riche qu'on a vécue, et j'encourage les gens à se rapprocher des assos pour se rendre utile et vivre la même expérience. On veut se saisir aussi de cette opportunité d'avoir la parole pour casser un peu tous les discours haineux, xénophobes et mensongers, surtout qu'on entend au quotidien dans les médias grand public.
Allons-y.
Et voilà, on a relevé quelques préjugés, ou même des fois des personnes qui ne sont pas du tout xénophobes, mais qui spontanément, quand on leur parle de cette expérience, c'est les phrases toutes faites qui sortent. Alors, comme par exemple, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ben ça, on voudrait répondre que de toute façon, c'est pas ce qu'on nous demande de faire. Actuellement, pour ce qui est de la migration africaine, par exemple, 75% de cette migration s'effectue vers un pays africain. Donc, c'est très peu de personnes qui arrivent jusqu'en Europe. La misère du monde, pourquoi parler de misère tout de suite quand il s'agit de ces personnes-là ? Il faut savoir que ça coûte très cher de venir en Europe et que les populations qui nous arrivent sont loin d'être les plus pauvres de leur pays, et que le niveau d'études chez les migrants qui arrivent chez nous est bien souvent plus élevé que la population générale française. On entend aussi, malheureusement, que nous sommes envahis, le fameux « grand remplacement ». Il y a une étude très intéressante de l'INED, qui est...
C'est l'Institut National de la Démographie.
Tout à fait, qui a étudié sur les années 2010-2019 comment la population française s'est agrandie. Donc on a pris 3,7 pour 1000 habitants. 3,3 représente le solde naturel, hein, les naissances, la natalité des Français. Et le solde migratoire, finalement, ne représente que 0,4 pour 1000 habitants. Alors que dans un pays comme l'Allemagne, on est à 5 points, d'autres pays, on est à 15. Donc on est loin d'être envahis. Les immigrés représentent 3,4% de la population mondiale. Donc on est loin d'un grand remplacement.
Et puis de toute façon, les humains, ils ont toujours bougé. Hein.
Ils ont toujours bougé.
Depuis qu'ils sont identifiés comme humains, et même peut-être avant.
Exactement. Là, pour refocaliser un peu sur Grande-Synthe, où on parle voilà, de 1400, peut-être 2000 personnes. On pourrait parler aussi de la frontière biélorusse, où on parle de 4000 personnes. On est 450 millions en Europe. Est-ce que pour quelques milliers de personnes, on n'est pas capable de les prendre en charge, de les accueillir dignement ? Vante d'être un pays d'accueil, un pays des droits de l'homme, mais on n'est qu'au 17e rang des pays européens qui accordent l'asile. Donc on peut se poser des questions. Autre idée reçue, l'immigration nous coûte cher. Faut savoir qu'un étranger de plus, s'il est en situation illégale, sans papier, n'a le droit à rien, si ce n'est peut-être à l'aide médicale d'État, l'équivalent de la couverture médicale universelle, qui représente que 0,2% du budget de notre sécurité sociale. Quelqu'un qui va avoir des papiers, qui va être installé, eh ben, faudra quand même qu'il attende plus de 5 ans de séjour régulier pour pouvoir prétendre au RSA. Donc l'immigration ne nous coûte pas et au contraire, elle rapporte parce que ces personnes réinvestissent dans l'économie, ces personnes cotisent. On a une étude du CNRS de 2018 qui le démontre et qui montre même que ça a un effet positif sur le chômage et le PIB par habitant. La dernière chose, et je pense que c'est important d'en discuter en ce moment, à l'heure où tout le monde se referme sur soi, les frontières feraient soi-disant baisser l'immigration. La fermeture des frontières, la construction
murs,
de murs,
ouais, voilà. Les barbelés.
Mais c'est faux. Alors ça, je vous invite à vous rapprocher de François Héran, qui tient la chaire Migration et Société au Collège de France, qui a mené de grandes études sur ce sujet-là, en partant même de la chute du mur de Berlin, où tout le monde disait à cette époque-là qu'il y aurait un afflux des pays de l'Est qu'on n'a jamais vu. Il y a une enquête européenne qui s'appelle « Migration entre l'Afrique et l'Europe », qui, au contraire, démontre que les frontières participent à l'augmentation de l'immigration. Le premier exemple, c'est 1974, où en France, on a arrêté la migration par le travail. Et le résultat, ça a été que les travailleurs immigrés ont eu peur de ne plus pouvoir revenir alors qu'ils faisaient des allers-retours entre leur pays d'origine. Et du coup, sont restés. et ont même fait venir leur famille. La fermeture des frontières aussi, ça occasionne quoi ? Ça occasionne le bonheur des réseaux de passeurs. Du coup, comme il n'y a plus de manière légale de venir dans nos pays, se mettent en place des réseaux souterrains où il y a de la traite d'êtres humains et où on fait la fortune de passeurs qui n'ont aucun respect pour ces migrants.
Voilà, c'est dit, je crois que le message est passé.
Moi, j'avais juste une petite phrase. À la Maison Sésame, il y a un poster sur lequel est écrit « Les barbelés avancent, alors faisons pousser les tenailles
voilà. ». On aime bien les tenailles sur Radio Évasion. Merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça. Et j'espère que la prochaine fois, vous nous annoncerez de meilleures nouvelles.
Merci.